Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui. Si on peut partir le PowerPoint, s'il vous plaît. Tu peux tourner tout de suite. Une photo de ma famille que peut-être certains d'entre vous connaissent ou ont déjà vu. Assez récente. Là, les enfants grandissent. Donc, on s'est vu là un an. Le dernier était vraiment un tout petit bébé. Oui, c'est rare, je porte des cravates. C'était un mariage. C'est la seule fois que j'ai porté une cravate dans les dernières 2 ans. Et que la famille va très bien. Je vais juste donner une petite nouvelle vite, mais j'ai pas beaucoup de temps ce matin, fait que je vais passer assez vite. On a parti de la Côte-Nord en dernière année. On a déménagé dans la région de Latuc. Toujours impliqué beaucoup à Wamantashi avec notre bâtiment de mission là-bas. Depuis un an, c'est-à-dire depuis qu'on est venu vous voir, on a commencé le ministère à temps plein, soutenu par don. Merci beaucoup à tous ceux et à l'Église ici qui nous supportent. C'est vraiment énormément apprécié. On voit la main de Dieu. On a eu des épreuves assez terribles et énormes, autant au niveau des relations dans l'équipe qu'au niveau de notre déménagement dans la dernière année, mais à travers tout ça, on a vu Dieu faire des miracles. On a été obligé de démolir notre maison jusqu'au salage, la reconstruire. Ça serait trop long à expliquer, mais ça a été... on voit quand même Dieu à l'œuvre faire des miracles de façon exceptionnelle. OK. Aujourd'hui, je suis venu pour prêcher. Pas pour présenter le ministère du tout, mais pour enseigner. Tu peux tourner c'est ça. Sur la réconciliation. Je cherche les mots... diapositive, je vais dire next. Next, c'est beau? OK. Sur la réconciliation, ça fait partie de notre énoncé de mission qui dit « Apporter la guérison dans la vie des Autochtones par l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul chemin de réconciliation avec le Créateur. » C'est non seulement une partie de notre énoncé de mission, mais en réalité, c'est tout ce qu'on fait dans mon ministère à tous les semaines, c'est-à-dire amener les gens à une réconciliation avec leur Créateur et leur enseigner à travers cette réconciliation-là avec le Créateur comment se réconcilier humain à humain. Tout au long de l'enseignement, d'aujourd'hui, on va faire un parallèle entre deux types de réconciliation. Premièrement, la réconciliation avec Dieu, le Créateur de l'univers, et la réconciliation humain-humain. Ça va être super le fun, un peu léger, pas beaucoup d'émotions. Si vous voulez sortir, il est encore temps. Ça peut brasser beaucoup de choses. Puis on va le voir un petit peu plus loin. Le verset, s'il vous plaît, next. Le verset de thème de notre organisme, c'est 2 Corinthiens 5, qu'il a sauté. Peux-tu revenir en arrière, s'il vous plaît? Et voilà. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec lui, il nous a donné à nous, en tant que sommes réconciliés avec lui, le ministère de la réconciliation. OK, change, next. Hey, j'aimerais ça. La réconciliation, qu'est-ce que la réconciliation? Si vous êtes comme moi, c'est un mot que vous avez entendu, qu'on entend beaucoup, beaucoup à TV, dans les processus autochtones, on entend parler de réconciliation à tour de bras. On le lit dans notre Bible, on le connaît, le mot. Le définir, c'est une autre histoire. Souvent, on a tendance à prendre la réconciliation comme un petit mot. On est réconcilié. On s'est réconcilié. Mais qu'est-ce que ça implique? Moi, personnellement, je trouve que la réconciliation, c'est ce que j'appelle un mot obèse. Un mot obèse. Ça vient de la même expression que dans un texte, t'as des blancs obèses, t'as des interlignes obèses. C'est-à-dire, entre deux lignes, ça veut dire beaucoup de choses. Mais c'est un mot obèse. Il veut dire énormément, énormément d'affaires. La réconciliation est un processus par lequel est réparée une relation brisée. Le premier mot que je veux vous arrêter, c'est le mot processus. Un processus, en partant, un processus ne se fait pas en une fraction de seconde. Ne se fait pas de façon instantanée. C'est pas « on est réconcilié », point, fini. C'est un processus. Donc, il y a une naissance de durée de temps, OK, qui se fait sur une période de temps. Deuxièmement, de réparer une relation brisée. Merci. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au départ, on part qu'il y a deux personnes, deux parties, deux individus qui sont en relation au départ, qui arrive un événement, une injustice souvent, qui va causer une rupture de la relation. Donc, à partir de maintenant, on a encore toujours les deux parties, mais qui maintenant qui ne sont plus en relation l'un avec l'autre. Ça va, hein? Tout le monde a compris ça. Tout le monde peut avoir des exemples concrets. Tout le monde a déjà vécu ça à peu près. C'est pas tout ce que je viens de dire là, un événement dans la vie, ça nous est tout arrivé dans nos relations. Une relation qui est séparée ensuite. La réconciliation, c'est le processus de la durée de temps qui part de cette relation brisée-là et qui se termine à maintenant, la relation, elle est réparée. Nous sommes en relation. Pas juste, on est capable de se parler sans se taper dessus, on est capable de se croiser sans s'engueuler, on est capable d'être dans la même pièce, puis ça va, mais maintenant, nous avons une relation. Ça fait une grosse différence de voir la réconciliation qui part de pas de relation et qui finit avec « nous avons une relation ». OK, next. La réconciliation, est-ce une option ou une obligation? Avec Dieu le Créateur, est-ce une option ou une obligation de se réconcilier? En réalité, oui, c'est une obligation, puis en même temps, oui, c'est une option. Dieu nous laisse libres, complètement libres de choisir. Puis en réalité, c'est tout le temps une option. Parce qu'une relation, ça se force pas. Tu peux pas forcer quelqu'un. Maintenant, tu vas être en relation avec moi. On appelle ça une dictature, on appelle ça un contrôle, on appelle ça n'importe quoi sauf une relation. On a toujours cette liberté-là de choix. Mais en même temps, si on ne se réconcilie pas avec le Créateur, on va avoir les conséquences qui vont avec. OK? Peux-tu, next? Merci. Le passage qu'on voit là, que je ne lirai pas, qui est dans 2 Corinthiens 5, qui est la continuité du texte qu'on a vu tantôt, nous dit beaucoup sur la réconciliation et du besoin de se réconcilier avec le Créateur. Premièrement, c'est l'amour de Christ. Quelle est la motivation de ce Créateur-là? Pourquoi Dieu, il veut qu'on se réconcilie avec lui? C'est quoi sa motivation qui a fait ce processus-là? C'est l'amour. Oui. Si on reviendra en arrière, pourquoi se réconcilier avec le Créateur? Genèse 1 et 2, on voit que, pour ceux qui sont peut-être pas familiers, je vais juste faire un petit retour en arrière, on voit qu'il y a un Créateur, il y a un Dieu, un esprit au-dessus de tous les esprits, un Tout-Puissant, qui a créé la terre. Ensuite, qui a créé des plantes. Ensuite, qui a créé des animaux. Puis ensuite, qui a créé un homme sur cette planète-là. On voit qu'il a créé tout ça, puis que c'était bon, c'était parfait. C'était un bel environnement. Moi, personnellement, quand j'étudie la création vraiment fond en comble, ce que je vois et je découvre, je crois que le plus difficile que Dieu a créé, c'est pas de la matière. C'est pas une plante, c'est pas un arbre, c'est pas même un être humain, même si l'être humain est hyper complexe et la planète elle est sans fin. Là. Humainement, on n'est même pas capable d'en connaître le bout. Je ne crois pas que pour Dieu, c'était la chose la plus complexe. La chose incroyable que Dieu a créée, c'était l'harmonie de toutes ces relations-là. Toutes ces relations-là. Premièrement, Dieu, cet être-là qu'on n'est même pas capable de saisir, qui est lui-même en relation avec lui-même à la perfection, dans ses trois personnes, qui est en relation parfaite avec un être humain, qui lui-même, dans le jardin d'Éden, est en relation parfaite avec les autres êtres humains, qui eux-mêmes sont en relation parfaite. Là, on rentre dans un domaine que là, les Occidentaux, là, sont « wow, on va y aller pareil. » Il est lui-même en relation parfaite avec tout un environnement, une planète, avec des animaux, des plantes, des animaux qui sont eux-mêmes en relation parfaite avec d'autres animaux. Puis tout ça, c'est en relation parfaite avec le Créateur de l'univers. Un beau cercle qui se ferme de toute cette harmonie-là. Imaginez des relations parfaites. Pas juste nous, avec un autre être humain, mais avec le Créateur, avec des animaux. Cette harmonie-là, cette paix-là, ça, c'est la chose qui était la plus fragile, qui était la plus complexe. Puis quand on voit ce que l'homme a fait, quand l'homme a choisi de ne pas obéir, de ne pas suivre la consigne que le Créateur avait donnée, c'est quoi que ça l'a détruit? Ça l'a détruit la relation entre l'homme et le Créateur. Ensuite, ben maintenant, l'homme et la femme, vous allez avoir des chicanes de couple. Mais en réalité, tous les êtres humains maintenant, là, les relations sont détruites. Ça, c'est, on est dans Genèse 3, là. Puis après ça, il dit, ben maintenant, vous allez travailler à la soie de votre front. Tu sais, la nature, là, ça ne marchera plus. Puis après ça, si on va dans Genèse 3 jusqu'à Genèse 9, avec le déluge et tout, l'accroissement des violences entre les animaux, les êtres humains, mais toute la relation entre l'homme, les animaux, la création, les animaux entre les animaux. Plus on va dans Romains 8, bien, on se rend compte que toute la nature a été souillée à cause du péché de l'homme. Ça a brisé toutes les relations. Au complet. Pourquoi on a besoin d'être réconcilié? Parce que c'est le processus pour réparer une relation qui est brisée. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. C'est la fin de ce texte-là. Tout cela vient de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Si Dieu n'avait pas fait cette œuvre-là de réconciliation, l'homme n'a pas la capacité de réparer tout ce qui est fait de mal. Il n'a pas la capacité de se réconcilier. Next. Avec les autres êtres humains, est-ce qu'on a l'obligation, le devoir, l'option, le plaisir de devoir se réconcilier. Prochain verset, s'il vous plaît. C'est donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel. C'est un verset qu'on sert beaucoup hein, quand on par rapport au repas du Seigneur qu'on a pris ce matin. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. As-tu qu'ils sont mal à l'aise un petit peu? Non? Parfait, ça va venir. C'est un devoir que Dieu nous donne entre frères et sœurs de nous réconcilier avec les autres chrétiens. Nulle part dans la Bible, on voit qu'il nous dit ben, « Soyez réconciliés avec l'ensemble des êtres humains de la planète et va et réconcilie-toi avec toute chose. » Et par contre, il nous dit « Avec les frères et sœurs dans le Seigneur qu'on doit être réconciliés. » Prochain verset, s'il vous plaît. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Là, le malaise augmente d'une petite coche. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. En d'autres mots, si vous êtes un vrai disciple de Christ, cela devrait transparaître dans vos relations. Vous devriez dégager de l'amour envers les autres et chercher à vous réconcilier. On va aller une coche plus loin. Après ça, on va enlever la pression. Prochain verset, s'il vous plaît. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Oh! Ouch! Ça fait mal. Moi, ça m'a fait mal. En d'autres mots, la façon que tu gères tes conflits, que tu as des relations, va dire qui sont de Dieu et qui ne sont pas de Dieu. Pourquoi que j'amène ça là ce matin? Est-ce que c'est pour vous dire, moi je suis parfait, j'ai zéro conflit, j'ai trouvé la recette miraculeuse et maintenant ma vie est à la perfection? Non. Je suis pas venu ici non plus pour vous faire sentir coupable. Ça donnerait rien. Mais quand même, je veux vous amener à considérer. Ça fait 35 ans. 35 ans que je vais dans les églises évangéliques au Québec. Puis j'ai pas vu beaucoup ça. Au lieu de voir des champions de la résolution de conflits, des champions des relations et de l'amour du prochain, souvent j'ai vu qu'on était des champions des chicanes. Peut-être votre église, vous êtes l'exception. Ça serait bien. Peut-être que vous, individuellement, vous êtes l'exception. Il y en a sûrement. Moi, je suis même pas l'exception. J'ai des conflits avec des frères et sœurs dans le Seigneur. Mais je peux vous dire que devant le Seigneur, je prie. Et je suis prêt à faire toute ma part de la réconciliation. Parce que comme on a dit, une réconciliation, ça vient d'une relation brisée entre deux personnes. Et la réconciliation se fait à deux. Et la personne a toujours le choix ou pas de vouloir se réconcilier. Et même si moi, je veux me réconcilier avec tous mes frères et sœurs, que je prends conscience de ça, ça veut pas dire que demain matin, je vais être réconcilié avec tout le monde. Parce que ça reste une relation. Par contre, face à Dieu, j'ai cette responsabilité-là du processus. Pas du résultat. Parce que ça appartient à Dieu et à l'autre personne. Et une partie à moi-même. Mais je suis responsable de faire ce que je peux là-dedans. De faire ma part. Intéressant, hein? OK. Allons voir maintenant, c'est quoi la réconciliation? Parce que là, on a tourné, faut-tu, faut-tu pas? Bon, on va y aller. L'étape 1, la vérité. On va y aller en trois étapes, puis tout le long, je vais faire le parallèle entre la réconciliation avec Dieu et la réconciliation humain-humain, comme j'ai dit. Jean 8, vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. S'engager dans un processus de réconciliation, c'est la guérison, c'est la liberté. C'est là que tout se répare, dans notre relation avec Dieu, mais aussi dans notre relation avec les autres êtres humains. La vérité avec Dieu. Pensez-vous que quelqu'un, tu sais, le Créateur a tout créé en relation, la relation a été brisée par l'homme. Pensez-vous que quelqu'un qui nie l'existence de Dieu, il peut-tu être réconcilié avec lui? Non. Si quelqu'un nie qu'il a fait du tort à ce Créateur-là, est-ce qu'il peut être réconcilié avec lui? S'il ne prend pas conscience, on va revirer ça humain-humain. Quelqu'un vous a fait du tort, une injustice, vous a fait mal, puis il vient, il te dit « Non, j'ai rien fait. » Est-ce que le processus qui finit, que maintenant on est en relation, puis on est rendu deux amis qui s'aiment, il peut se faire? Non. Il est complètement bloqué. C'est la première étape. L'étape où ce que la vérité, dans le cas avec Dieu, c'est une vérité qui est absolue. Parce qu'il est la vérité. On la saisit en partie, mais c'est la seule place où ce qu'il y a une vérité absolue. Dans le cas de chicane humain-humain, là, on parle pas de vérité absolue. Hein. On parle souvent de deux êtres humains qui ont chacun leur perception de la vérité. Puis souvent, c'est ça le problème d'un conflit. Hein. Moi, j'ai ma vision de la chose. L'autre personne en face de moi a sa vision de la chose, qui est souvent bien différent. Les deux, souvent, on se dit être victime dans ce processus-là. Quand souvent, si on irait avec humilité, amour et un petit peu d'intelligence, qu'on se mettrait un face à l'autre, on se rendrait compte que les deux, souvent, on a des torts, puis les deux, souvent, on a été victimes. Mais tant que ce processus-là n'est pas fait, tu ne peux pas aller plus loin dans une réconciliation entre deux personnes. Tu peux toi-même faire ta part, c'est-à-dire, je suis conscient, supposons, du tort que j'ai fait, et cheminer dans le reste de la réconciliation, mais tu ne peux pas, tant que les deux personnes ne viennent pas face à face, dire, oui, je t'ai fait du tort, oui, c'est ça qui s'est passé. Tout est bloqué. Tout simplement parce que tant que la vérité ne sort pas, tout ce qui suit après est faux. L'étape 2, next. Je les ai mis un par-dessus l'autre. Pardonner et se repentir. Pardonner et définir, juste, pardonner, c'est la personne qui a été victime, à qui l'injustice a été commise. Elle doit pardonner. Ça, c'est une phrase qu'on entend beaucoup hein, dans le milieu. Tu dois pardonner. Et repentir, c'est la personne qui a été l'agresseur. J'utilise des gros mots, hein? La personne qui a commis l'injustice envers l'autre personne. Elle a le devoir de se repentir. Pourquoi les deux sont un par-dessus l'autre? C'est parce que ça fait partie de la même étape, en réalité. Soit il va humain-humain. OK? Qu'on se parle, moi, puis la personne avec qui je me suis chicané, qu'on se rend compte que je me rends compte que j'ai pas été correct dans ce que j'ai fait là. En même temps, l'autre personne n'a pas été correct face à moi. Mais en réalité, il va falloir que je fasse les deux. Il va falloir que je pardonne ce que l'autre personne m'a fait de mal. Il va falloir que je me repente de ce que moi, j'ai fait de mal. Vous me suivez? Ça va? Bon, c'est bien. Le pardon. On va aller vraiment plus en profondeur, mais en même temps, je manque de temps ce matin. Le pardonner. Au cours des dernières années, j'ai eu, c'est même pas un plaisir, j'ai eu la grâce de Dieu, en même temps, c'est un fardeau, d'accompagner beaucoup de gens qui ont vécu énormément de souffrances. J'ai eu l'occasion d'accompagner des gens que 20, 30, 40 ans de leur vie sont caractérisés par des abus sexuels, des abus physiques. C'est pas évident d'amener des personnes qui ont cheminé avec autant de souffrances dans leur vie à la guérison. Puis, souvent, même pour moi dans ma vie, quand j'étais dans un milieu évangélique, je suis encore, mais dans les églises plutôt, parce que là, ça fait un petit bout que dans mon ministère, je travaille plus en parallèle. On se fait servir une réponse un petit peu gratis. Tu y vas, tu dis, tu arrives là avec un petit peu de colère, beaucoup des fois. Tu arrives là avec des fois de l'amertume, de la haine. Tu arrives là, là puis t'es blessé, t'es défaite. Puis là, on te sert ce que j'appelle un repas micro-ondes. Ben, il faut que tu pardonnes. C'est pas plus compliqué que ça. Pardonne. Ben oui, oui, oui. Il m'a violé. Il m'a détruit. Il a défait ma vie. Ouais, mais pardonne. Pardonner. On bloque, hein? C'est facile quand c'est des petites affaires, là, tu sais. Puis que t'aimes beaucoup la personne, puis c'est juste une petite niaiserie, tu vois, oh, c'est beau. Je te pardonne. En réalité, ça tu sais, surtout quand la personne vient et dit, ben, tu sais, c'est mal ce que j'ai fait, tu sais. Puis je vais réparer, puis inquiète-toi pas, ah, oh, je te pardonne. Mais quand c'est pardonner l'impardonnable, des blessures qui sont là, là, puis que ça nous mange, ça nous a détruits, ça nous a hypothéqués dans notre vie. Là. Puis là, t'es là, pardonner. Qu'est-ce qui bloque? J'ai réalisé, avec les versets que là, j'ai réalisé beaucoup de choses. Un matin, il en a parlé, quand il parlait du repas du Seigneur, juste avant de prendre le repas du Seigneur, il a parlé de certains éléments. Au-dessus, vous avez les textes de Darby, qui est une version plus intégrale, qui traduit intégralement à partir du texte grec. En bas, vous avez une version, je pense que c'est second 21. « Et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est le même verset, juste pas la même version. « Remets-nous nos dettes. » Il présente pardonner comme remettre des dettes. Une dette. T'sais, un matin, il a parlé même d'une dette d'argent. T'sais, qu'est-ce que c'est, pardonner? En réalité, tout le monde et moi, sans exception, où ce que j'ai bloqué d'en pardonner les gens, là, c'est justement parce que je voulais que les gens y payent le mal qu'ils avaient fait. Je voulais qu'ils payent pour ce qu'ils avaient fait. Je voulais qu'il y ait une justice. Je voulais que la personne qui m'a agressé sexuellement paye pour ce qu'elle avait fait. Est-ce que je suis anormal d'avoir ce désir-là à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est correct d'avoir ce désir-là de justice? On va reformuler la question. Est-ce que Dieu a ce besoin de justice en lui? Complètement oui. On voit le Dieu amour, le Créateur, OK, qui a créé la planète et qui lui-même s'est fait homme pour venir réconcilier par amour. On voit l'amour, mais autant Dieu est amour, autant il y a ce besoin-là d'intrip, de justice, que tous les péchés, que tout le mal ne reste pas impuni, que chaque personne qui a fait du mal paye pour. Wow! Puis souvent, cette notion-là, on bloque là. Pourtant, on a été créé à l'image de ce Dieu-là, avec ce même besoin-là. Puis on bloque drette là. Ce besoin-là, il était tellement grand pour Dieu que Dieu n'a pas juste fait comme la petite phrase micro-ondes qu'on sert aux gens. « Ah ben, je vous aime les êtres humains. Je vous pardonne. » C'est pas ça que Dieu a fait. Dieu, face au péché de l'homme, il n'a pas juste fait une petite phrase miracle comme nous, souvent on a tendance à servir aux gens. « Ben, pardonne. » Là, Dieu, « Ah ben, je vous pardonne, très cher être humain. Et tout est beau. Et maintenant, on est réconciliés. » Non. Il y avait ce besoin de justice-là qui a fait que il y a eu besoin qu'il y ait une justice qui s'accomplisse. Il y a eu besoin que quelqu'un qui n'avait aucune dette, qui est le Créateur lui-même, Dieu, qui s'est fait homme, Jésus-Christ, par sa vie parfaite, sans aucune dette, vienne, vive sur la terre, ensuite paye pour le péché, qui, par la mort à la croix, a assouvi le besoin de justice de son Père. Ce qui est intéressant, c'est que quand que j'étais avec des messieurs, des madames qui ont vécu 30-40 ans d'abus, que leurs agresseurs, des fois, sont décédés, leur agresseur nie l'agression, leur agresseur reconnaissent pas du tout ce qu'ils ont fait ou ils n'ont plus de relation, tu peux leur dire, oui, tu peux pardonner. Et ton besoin de justice, il est sauf. Parce que notre Créateur, notre Dieu Tout-Puissant dans le ciel, lui, il est justice. Et lui, il va faire payer. Et lui, il va te venger. J'utilise des gros mots, là. Mais la réalité, elle est là. Puis sache que la personne qui t'a agressé et qui t'a fait du tort va payer incroyablement, durement, tout le mal que t'as fait. Ça a l'air dur, hein? Ah, méchant, colère. Mais moi, quand j'arrive à ce point-là, là, ça m'amène à prier pour la personne qui m'a agressé dans ma vie. Puis dire, Seigneur, amène-la à la réaliser le mal qu'elle a fait puis à s'en repentir. Parce que si elle ne s'en repent pas, là, elle va passer un méchant quart d'heure. Puis ça m'amène à réaliser que moi-même, dans ma vie, là, oh, j'en ai fait du mal aux autres. Avant de lancer la pierre aux autres, là, ben, qu'est-ce que moi j'ai fait comme mal? Parce que moi aussi, je vais payer pour tout le mal que j'ai fait. Heureusement que j'ai accepté le pardon de Dieu. Heureusement que j'ai accepté que Jésus me pardonne complètement. Et que je peux me repentir de mes péchés. La repentance. Next. L'autre. Se repentir. Tu peux l'ouvrir, s'il te plaît. J'ai mis ça un petit peu en quatre étapes avec un U-turn. Un U-turn, pourquoi? pas nécessairement pour un changement de direction, mais il y a quand même un changement qui se produit, là. La première étape, la prise de conscience dans la repentance. La première étape se passe où? Se passe dans la vérité. Vous voyez, quand j'ai dit, si on ne prend pas conscience de la vérité, tout le reste après qui suit est faux. Y a-tu de quoi de pire que quelqu'un qui t'a fait du mal, là, mais tu sais, qui ne réalise pas pantoute, là, qui ne réalise pas la portée du mal qu'il t'a fait, là, puis il te sert un petit « Ah, ben je m'excuse », tu sais. Puis tu sais, en dedans de lui-même, là, que lui, dans sa tête, il n'est pas coupable de rien. C'est quasiment double insulte. Hein. C'est insultant. Tu sais, tu te dis, il n'a même pas réalisé. Il ne réalise même pas la portée du mal qu'il fait. Souvent, on est de même, nous, face à notre Créateur. Hein. On ne réalise pas qu'on a détruit toute la planète, toutes les relations, qu'on a tout scrappé. Mais tu sais, oh, pardon Dieu. C'est pas plus grave que ça. Là. C'est juste une planète. Là. T'en feras un autre. C'est souvent notre perspective, tu sais, des choses. La prise de conscience. De prendre conscience avec humilité. De regarder vraiment le mal qu'on a fait en face. De pas jouer à l'autruche. De pas, oui, mais c'est parce que dans ma petite enfance, et puis, tu sais, ouais, mais si on monte de même, là, la personne qui t'a fait mal dans ta petite enfance, elle a eu une enfance elle aussi, puis, tu sais, puis on recule de même, là, on tombe où? Oh boy, Adam et Ève. On peut reculer longtemps de même, mais on va finir à Adam et Ève, puis en été de problème, ben, le péché est venu dans le monde, puis on subit le péché d'aux autres, puis ça se produit en nous le péché, puis ça avance comme ça. Je suis pas en train d'enlever, comment je dirais ça, je veux pas manquer de respect envers la souffrance des gens en disant ça, mais reste que c'est vrai. Puis le mal qu'on produit n'est jamais excusé par le mal qu'on a subi. Jamais. Prendre conscience du mal qu'on fait. La deuxième étape, l'expression du regret. Aller devant notre Créateur et exprimer le mal que moi j'ai fait personnellement. Que aller face à la personne qu'on a offensée et exprimer le mal. J'ai travaillé avec des gens qui ont subi des grosses agressions dans leur vie. Et j'ai travaillé aussi avec des gens qui ont subi des grosses agressions et qui ont fait des grosses agressions. Là, ça vient dur, tu sais. Tu sais, tu lui dis, oui, il faut que tu pardonnes tout ce que tu as vécu d'injustice. Et là, maintenant, là, cette liste-là, là, la petite fille que tu as violée, là, ta femme t'a battue, tout le mal que tu as fait à tes enfants, tout ça, là, ça, il faut que tu t'en repentes. Faut que tu prennes conscience, puis faut que tu ailles avec humilité envers chaque personne te repentir. Premièrement, te repentir envers Dieu. J'allais sauter cette étape-là parce que c'est lui qui nous pardonne. Et deuxièmement, aller face à la personne qu'on a blessée, puis se repentir. Faut comprendre que tout le monde, on a tous subi des péchés. Puis ce péché-là a produit en nous des péchés qu'on a commis. Puis tout le monde avec qui j'ai eu à travailler en relation d'aide, ils ont tous eu à pardonner, mais ils ont tous eu à se repentir aussi. Puis personnellement, je trouve que pour guérir, là, on a souvent besoin plus de se repentir que de pardonner. Parce que ce qu'on a subi, c'est un événement. Puis ce que ça a produit dans notre vie, des fois, là, c'est immense. Comment que nous, ensuite, on en a fait des choses mal. Comment qu'on a manqué d'amour, comment qu'on a manqué de me faire confiance en Dieu, comment qu'on a fait souffrir les autres personnes autour de nous, comment qu'on a détruit nos relations. C'est incroyable. Comment qu'on peut avoir été contrôlant, manipulateur, agressif, violent. Ces choses-là, il faut s'en repentir. Aller vers les personnes, puis leur exprimer le regret. Pas arriver non plus de dire, ouais, mais tu sais, tu sais, maman, là, elle a été violée quand elle était jeune, puis c'est à cause de ça que je t'ai fait vivre une vie de chenoute, là. Fait que je regrette, là. Non. Ça, oui, tu peux avoir eu ton vécu, mais en réalité, tu restes responsable de ce que tu as fait. Exprimer le regret. Changement de comportement. Okay? Dans une repentance, il doit avoir un changement de comportement. Je vais dans le stationnement, je vais scraper un de vos chars. Y a-t-il un volontaire? C'est pour une fin de démonstration. Il n'y a jamais de volontaire. OK, il y en a un. Il n'y a pas de char, je suppose. C'est facile, là, quand on n'a pas de char, tu sais. Mais je ne prendrai pas le mien, là. Mais je vais dans le stationnement, je brise votre véhicule volontairement ou même involontairement, mais je vais te voir, puis je t'exprime du regret, je suis désolé, puis je m'en vais d'abord, puis je leur scrap. Je refais une scratch. Est-ce que j'ai de l'air sincère? Est-ce que j'ai de l'air d'avoir réalisé moindrement ce que j'ai fait de mal? Mais on a souvent cette espèce de comportement-là. Puis là, je vois tout de suite à l'opposé le verset de Paul qui dit « Ouais, mais je fais pas le bien que je veux faire, puis je fais le mal que je veux pas faire, puis ben finalement, il est encore pécheur. Y a-tu vraiment eu un changement de comportement? » Ben, moi, je pense que oui. Ben, Paul, il a comme arrêté de tuer des chrétiens. C'est un début de changement de comportement. Puis si tu regardes la vie de Paul dans son entier, il n'est pas devenu parfait, mais il y a clairement un changement dans son comportement. Dieu l'a clairement sanctifié à travers les années et il y a eu un véritable changement. Ce changement-là se fait à travers la relation qu'on va voir après avec Dieu. Se fait pas nécessairement par une volonté de « je m'auto-flagelle et je dois changer ». Sauf que s'il y a une vraie prise de conscience, il y a un vrai regret, il va y avoir un changement dans le comportement. Et la quatrième étape, qu'on voit très rarement, la réparation. Dans la culture Innu, les Innus de la Côte-Nord, les Autochtones, eux, dans leur culture précoloniale, ils n'exprimaient jamais le regret. Ils disaient jamais « je te demande pardon », ça n'existait pas dans leur langage. Eux, quelqu'un qui faisait du tort devait réparer, devait rééquilibrer, devrait tout faire pour rapporter l'harmonie dans leur relation. S'il tuait quelqu'un par accident, bien, il devait prendre soin de sa femme, de ses enfants. Il devait tout faire pour réparer. Là, maintenant, est-ce que ce principe-là est biblique ou c'est un beau principe de culture? Tu peux mettre le verset, s'il vous plaît. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Pourquoi donner notre vie à Dieu est un culte raisonnable? Raisonnable, c'est pas un culte incroyable et une offrande de grande valeur. C'est juste raisonnable. C'est comme si c'est raisonnable que je te paye la scratch que j'ai faite sur ton char. Le minimum, c'est que je paye la réparation. Pourquoi c'est raisonnable que je choisisse de donner ma vie à Dieu? On n'est pas en train de prêcher un salut par les œuvres, là. On n'est pas en train de dire qu'on est en train de donner ma vie à Dieu pour faire des bonnes actions pour être sauvé. On est dans repentance. Dans la repentance face à Dieu, je prends conscience du mal que j'ai fait qui a coûté la vie de mon Créateur. Et en retour, je lui donne ma vie. Tout simplement. Et c'est un culte raisonnable. C'est une réparation raisonnable pour tout le mal que j'ai fait. Souvent, on a tendance à avoir prêché au Québec, peut-être pas ici, mais ailleurs, des fois. Je veux pas juger personne, mais ça fait 35 ans que je voyage. Une espèce de salut en deux vitesses. Hein. J'accepte Jésus comme mon sauveur, puis après une couple d'années, comme mon Seigneur. Maintenant, j'y donne ma vie complètement et je m'abandonne à lui. Mais en réalité, il n'y a pas de deux vitesses. Il n'y a pas de deux vitesses dans le salut. Il n'y a pas de deux vitesses dans la réconciliation. Ça fait partie du processus. À un moment donné, ta vie ne t'appartient plus. Elle appartient à Dieu. Étape 3. C'est plate, je ne peux pas rester trop longtemps parce que je dois être déjà en retard. Étape 3, la relation. On a dit, une réconciliation commence à pas de relation et finit avec une relation. Ça finit pas juste à ben Jésus m'a pardonné, Dieu il m'a pardonné, je regrette le mal que j'ai fait, Seigneur, ça y est, je suis réconcilié. On se parlera plus souvent, mais ou presque pas souvent, sauf le dimanche matin, là. Mais je suis réconcilié avec toi. C'est pas ça une réconciliation. C'est comme si deux personnes, là, vous êtes trahis mutuellement, là. Vous êtes en chicane, vous êtes capable d'arriver, vous parler, de dire oui, c'est vrai, on s'est fait ça, je t'ai fait ça, je t'ai fait ça, je te demande pardon, je te repens. Après ça, vous embarquez chacun dans votre char, vous en allez. Est-ce que vous êtes réconciliés? Ben, il manque de quoi? Il manque une relation. Peux-tu, next? La relation, le nouveau départ. Next. Trois petits mots. Parce que ça, c'est une question là qui me vient tellement souvent, puis que même hier, je suis à Momentum, puis cette question-là est sortie. Ouais, mais moi, lundi matin, là, je vais avoir une relation avec Dieu, là, je fais quoi? On dirait qu'on regarde la relation avec Dieu, là, puis on fait, oh, c'est quoi cette affaire-là? Ça a l'air énorme. Si tu allais à l'église, plus lire ma Bible, plus ci, plus ça. J'ai pris trois petits mots qu'on met dans nos relations de couple. On a comme compris que ça, dans les relations humain-humain, c'était comme la base des relations, souvent, ou... Si vous ne l'avez pas compris encore, c'est peut-être bon, vous l'appreniez. Mais on a comme oublié que ça, c'est la base des relations tout court. Le premier mot, la confiance. La fichue de confiance. Au début, dans la vérité, dans tout le processus, on voit la partie de la foi qui est de croire, de prendre conscience et de croire. À cette étape-ci, on voit l'autre partie de la foi en Dieu, qui est de faire confiance en Dieu. C'est dur dans une relation humaine où tu as été trahi, de dire, bon, mais maintenant, là, je vais choisir que je vais lui donner une deuxième chance, tu sais, souvent on va dire ça de même, puis je vais y faire confiance à nouveau, tu sais, puis on va reprendre un risque d'une relation avec lui. Ce qui est drôle, c'est qu'on a ce même réflexe-là envers Dieu. On a comme peur, on est bloqué, on veut pas faire confiance en Dieu, puis pourtant, c'est nous autres qui l'a trahi. On est bizarre, hein? C'est Dieu qui devrait avoir peur de nous faire confiance. Pourtant, Dieu est là, puis vas-y, lâche-toi. Moi, je te fais... Tu sais, il est prêt à nous faire confiance même. Il est bizarre, mais... Je ne comprends pas là, cet aspect-là, mais on voit un Dieu d'amour qui nous tend la main, qui est même prêt à avoir une relation avec nous faire confiance, puis nous autres, on est là, puis c'est ce qu'il veut. On se méfie de lui, on a peur. Hein? Pourquoi? La vie nous a enseigné quoi? La méfiance. La vie nous a enseigné dans les relations à pas faire confiance. Mais c'est que si tu enlèves cette confiance-là, en d'autres mots, si tu enlèves la sécurité dans une relation, il n'y a rien qui passe. Essayez de vous sentir... Tu sais, prenez quelqu'un qui vous a trahi dans votre vie, qui vient vous voir et dit, tu sais, je t'aime beaucoup. T'as le goût de pogner un bat de baseball puis de... Non, on va arrêter là l'image. c'est quasiment... Hey, c'est insultant, hein? C'est comme... Pourquoi elle n'a pas de confiance? Tu peux pas te sentir aimé. Mais combien de chrétiens, ça fait 10, 15, 20 ans, n'ont jamais goûté l'amour de Dieu? J'ai fait partie de ces croyants-là. J'avais tellement de colère, de haine envers Dieu dans ma vie, même si j'étais élevé dans le milieu évangélique, que ça m'a pris des dizaines d'années. Ça a été juste à l'âge de 27 ans dans ma vie que j'ai enfin vraiment goûté profondément l'amour de Dieu. Pourquoi? Je me méfiais de lui. Je me méfiais de Dieu complètement. En réalité, là, on n'avait pas de relation. J'étais en conflit continuellement avec Dieu tout ce temps-là. La relation n'était pas réconciliée. Pas à cause de Dieu, à cause de moi. Dieu, il avait tout fait son, sa part. Là. Si vous voyez le petit schéma dans votre tête, là, le petit losange, là. Dieu est la vérité. Dieu m'avait pardonné. Dieu était prêt à être en relation avec moi. Moi, j'avais compris la vérité. Même je m'étais repenti de mes péchés. J'avais 9 ans. Mais je n'avais pas de relation avec lui. Je n'avais pas fait ma part. Pourquoi je n'étais pas hâte de faire confiance? Comment faire confiance? On a besoin de l'autre mot après, dépendance. La vie nous a enseigné la méfiance. Là, on arrive à dépendance. Puis là, d'un coup, dans les relations, si on met ça dans une relation de couple, là, la dépendance, ben, wow, on va faire dépendance affective. Tu sais, un instant, là, moi, je ne veux pas avoir besoin de personne. La vie nous a enseigné la méfiance, puis elle nous a enseigné, n'aie pas besoin de rien ni personne. Sois autonome, indépendant, autosuffisant. Est-ce que c'est le même que Dieu nous a créés? Ce qui est drôle, si on fait juste regarder l'ordre de la création, là, il n'a pas créé l'homme en premier. Autosuffisant, autonome et n'ayant besoin de rien. Il l'a créé en dernier. Imaginez s'il aurait créé l'homme en premier. Pas d'air, pas de planète, pas de plantes, pas d'animaux. Il serait mort. Pourquoi? J'ai besoin d'une terre sur laquelle avoir mes deux pieds. J'ai besoin de l'air que je respire. J'ai besoin des plantes. J'ai besoin des animaux. Puis j'ai besoin des autres êtres humains. Enlevez tous les autres êtres humains de sa planète, mettez-vous tout seul. Là. Il vous reste quelques secondes, quelques minutes, peut-être quelques années, mais vous allez mourir. Émotionnellement, vous allez virer fou. Puis physiquement, ben, vous n'irez pas loin. C'est parce qu'à un moment donné, ça ne se reproduit pas tout seul. Mais dans notre tête intelligente, dans notre expérience de vie, on s'est dit, ben moi, je n'aurai pas besoin de personne ici sur la terre. Puis on va en rentrer dans nos relations avec la même attitude. Hein? Oui, je t'aime, ma chérie, mais tu pars demain matin, je vais être capable de me débrouiller. On le dit pas ouvertement de même, hein? Moi, j'ai fait sentir ça à ma femme pendant mes deux premières années de mariage. J'avais cette espèce de réflexe-là en dedans. Là. Pas besoin de personne, moi. Je suis pas ennuyeux. Je m'ennuie pas de personne. Il crève demain matin, je vais survivre. Okay. Je le disais pas de même, là, mais... En dedans, c'était quasiment comme ça, tu sais. Hey, que j'ai fait souffrir ma femme avec ça aussi. Hein? Puis à cette heure, je réalise, j'ai besoin qu'elle m'aime. J'ai comme besoin d'elle. Ben oui, je dépends d'elle. Comme je dépends de mon Créateur. J'ai besoin de lui dans ma vie. Et ça fait partie de ma relation. Le troisième mot, le respect. Enlever le respect dans une relation. Est-ce que vous avez encore une relation? Non, il n'y en a plus. C'est quoi le respect face à Dieu? Il y a deux mots, crainte et obéissance. Craindre Dieu pour qui il est et l'obéir. Là, on voit obéir énorme. Là. Bon, ben, je vais arrêter de mentir, je vais arrêter de... Un paquet d'actions de « je vais arrêter de... » On oublie premièrement les « je vais arrêter les, ce que je fais pas », mais on se concentre sur ce que je fais de mal, puis on néglige souvent ce que je devrais faire de bien. Mais on va ramener plutôt ça à une dimension plus petite que souvent on néglige. La dimension d'une journée. Pas une vie. Pas une demi-éternité, mais une journée. Qu'est-ce que ça signifie avoir une relation avec Dieu aujourd'hui? OK? Premièrement, dire oui, Seigneur, je choisis de te faire confiance. Pourquoi? Parce que souvent, la confiance, c'est facile quand on a des bons sentiments et tout va bien avec quelqu'un. Mais quand que ça ne vient pas naturellement, bien là, ça devient un engagement. OK? Il y a comme trois étapes dans la confiance. C'est comme l'amour, la confiance. Hein. T'as le départ, c'est des sentiments. Je fais attention avec mes doigts. Là. T'as d'abord des sentiments. Tu sais, c'est un sentiment. Tu sais, ah, j'ai un sentiment d'amour envers cette personne-là. J'ai un sentiment de confiance. Ça, c'est comme. Ça, c'est facile, ça va bien, c'est agréable. Là. Petit papillon, puis. Ça colle. Mais quand ça part, ces sentiments-là, qu'est-ce qui reste? C'est là qu'il faut changer. Qu'est-ce qui reste? Il reste que ça doit être un engagement. Un engagement. Vous avez tous ceux qui sont mariés depuis un petit bout, là, ils sourissent tous, là. Ça doit être un engagement. Je choisis envers et contre tout, que je comprenne ou comprenne pas, je choisis d'aimer ma femme. Que je sente qu'elle m'aime, qu'elle ne me sente pas qu'elle m'aime, que je me lève à matin, puis je ne sais pas, émotionnellement, c'est comme... Je choisis que je l'aime. Oui. Mais il ne faut pas que ça reste non plus ce stade de même. Il faut que ça aille à l'autre niveau après, qui est, maintenant que je choisis de faire confiance, il faut que je l'expérimente, cette confiance-là. Il faut que j'expérimente, et je l'aime, je donne de l'amour à ma femme, puis... D'un coup, elle se met à répondre à cet amour-là. Je me mets à faire confiance à quelqu'un, puis il répond à cette confiance-là. T'sais, avec Dieu, c'est pareil. Hein? Faites-le. Levez-vous le matin et me dire, bon, Seigneur, aujourd'hui, là, vous allez voir, la peur, elle monte dans les tripes, c'est instantané. Là. Je choisis de te faire confiance. Là d'un coup, petite peur, hein? Mais regarde, je veux l'expérimenter. Je l'ai choisi, là, mais je veux l'expérimenter. Je veux que tu répondes à cette confiance-là pour voir que tu es digne de confiance. Qu'est-ce que ça fait, la confiance m'agrandir? Parce que Dieu répond parfaitement à cette confiance-là. Il n'attend que ça. On a besoin, par contre, hein, de dépendre de lui. Justement à cause de ces peurs-là, à cause qu'on est tous bloqués, ça fait partie de dépendre aussi d'expérimenter. Et de respecter et obéir. Souvent, ça va avec la notion de volonté de Dieu. Hein? Qu'est-ce que Dieu attend de moi aujourd'hui pour que j'y obéisse? Comme j'ai dit, je n'ai pas dit qu'est-ce que Dieu attend de moi dans 10 ans comme ministère, être à la tête d'une église de 1000 personnes, mais aujourd'hui dans ma vie. Puis souvent, on a tendance à regarder la volonté de Dieu sur « Bon, Seigneur, révèle-moi ta volonté. » Quelles sont les grandes œuvres magnifiques que tu veux que je fasse pour toi? Puis c'est comme Dieu nous a déjà révélé plein d'affaires de sa volonté, puis c'est comme, on s'en occupe pas. Tu sais, du genre, aime ton prochain. Qu'est-ce que tu veux? Ben, commencer à obéir à Dieu, là, c'est de se lever justement avec cette notion-là. Va réparer les relations qui sont brisées. Aime ton prochain, aime ton frère et ta sœur. Fais confiance en Dieu. Ça fait partie de l'obéissance à Dieu. C'est la base. Fixez pas sur des grosses affaires, là. Commencez par une petite chose, une petite roue. Moi, j'appelle ça une petite roue. De faire confiance à Dieu. Une relation, là, ça grandit avec le temps. Ça pousse pas instantané. Tous les gros coups de foudre instantanés, là, ça fait... Ça retombe. Ça dure pas. Les relations durables, c'est ceux qui le bâtissent avec le temps. Voyez votre relation avec Dieu de la même façon. Aujourd'hui. Parce que demain, on aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. C'est pas des petits proverbes Internet, là. C'est des versets de la Bible que je cite, là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je peux faire confiance à Dieu, je peux dépendre de lui, puis je dois lui respecter, lui donner le respect qu'il mérite. On va prier. Merci Seigneur pour ton grand amour qui m'a transformé, qui m'a libéré, qui m'a brisé dans ma folie, dans ma souillure. Seigneur, je te prie, ma prière, c'est que ton Saint-Esprit qui agit puissamment en nous, puisse accompagner toutes les personnes ici, cette semaine, à aller plus grandement dans une relation avec toi, à aller plus grandement dans leur relation avec leurs frères et sœurs, à ce qu'ils puissent atteindre la grande liberté, la grande guérison, Seigneur, que tu nous offres. Seigneur, je t'en supplie, laisse pas tes enfants continuer à vivre esclaves et souffrants dans des relations qui ne sont pas réparées. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, laisse pas ceux qui ne te connaissent pas ne pas être réconciliés dans leur relation avec toi. Dans le nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen.